Bienvenue à tous. Vous vous souvenez peut-être que pendant le mois de Ramadan, nous avons eu un rendez-vous régulier chaque jour du mois de Ramadan. Et symboliquement, nous reprenons ces émissions à la veille de l'Eid el-Kbir. Je vous souhaite à tous une excellente fête, pleine de méditation, pleine de réflexion, pleine de désir de paix, car nous avons besoin de paix. Et je vais justement, dans cette première rencontre avec vous, chers auditeurs, parler brièvement, bien sûr, de l'Eid el-Kbir, de ce que c'est, de façon à ce que vous puissiez enrichir votre méditation pour cette fête, cette année. Vous vous souvenez que j'avais laissé de côté un grand nombre de sujets que je n'ai pas pu traiter avec un peu de détails, faute de temps. Ces émissions ont eu un succès qui ont décidé la direction de Radio Orient de continuer ce travail parce que il est absolument indispensable de penser à multiplier les informations de type, encore une fois, scientifique et pas du tout passionnel, pas politique, au sujet de ce que signifie la vie religieuse, la pratique religieuse dans un pays laïque comme la France, car nous sommes en plein débat fondé sur des ignorances réciproques qu'il est extrêmement difficile de combler seulement par quelques émissions de radio. Mais c'est déjà un bon point et de nouveau je voudrais remercier la direction de Radio Orient de prêter attention à cet aspect et de faire un travail que les radios françaises et la télévision aussi ne font pas malheureusement, bien que là aussi on commence à prendre conscience qu'il est absolument indispensable de s'adresser au grand public et de solliciter l'attention du grand public, parce que quand on aborde des questions d'histoire des religions, on tombe dans une technicité qui n'est pas habituelle pour le grand public qui écoute la radio. Et donc j'invite les auditeurs à continuer de m'accompagner comme ils l'ont fait pendant le mois de Ramadan pour reprendre cette fois-ci une sorte d'initiation, une sorte de cours qui va être donné toutes les semaines, chaque semaine, le vendredi avec une rediffusion le dimanche pour attraper des auditeurs qui n'auraient pas pu écouter la première fois. Et je vais essayer de donner donc l'allure d'un cours ou d'une introduction à une connaissance historique, critique, de ce qu'est l'islam comme religion, et une introduction aussi à la distinction que nous devons tous faire, et tous les musulmans doivent s'y habituer, et je sais qu'ils ne le sont pas, entre l'islam comme pratique religieuse, l'islam comme croyance, système de croyance, qui est toujours brandi par les musulmans, et bien sûr c'est tout à fait leur droit, comme les autres croyants d'autres religions, mais ces croyances dont on fait état et que l'on exhibe dans l'espace public, ces croyances-là, dans toute religion, doivent être accompagnées par une connaissance intellectuelle de la signification de ces croyances, de la genèse historique de ces croyances. Et par exemple, puisque nous sommes à la veille de l'Aïd el-Kbir, une grande fête, on l'appelle Kbir, parce que justement elle célèbre un moment de ce que on appelle l'histoire du salut. Il y a une histoire du salut, et il y a notre histoire terrestre qui est politique, qui est culturelle, qui est intellectuelle, qui est artistique, etc. Et l'histoire du salut, voilà un outil de pensée pour réfléchir. C'est un concept qu'emploie la théologie. Voilà, ça se complique. je passe d'un concept peu familier à un autre concept qui désigne une discipline intellectuelle qui n'est pas davantage connue. Parmi les femmes, par exemple, qui sont descendues dans la rue pour affirmer leur droit de porter le voile quand ça leur plaît, celles qui veulent manifester leurs croyances, eh bien, parmi ces femmes, je suis sûr que très peu savent ce qu'est la théologie, de quoi s'occupe la théologie. Je ne peux pas prononcer ce mot sans m'y arrêter et expliquer. Qu'est-ce que la théologie ? La théologie, c'est un terme qui est composé de deux mots grecs. Théos, qui veut dire Dieu, et logos, qui veut dire l'étude intellectuelle et scientifique sur l'existence de Dieu. Comment connaissons-nous Dieu ? Comment connaissons-nous Dieu ? Il faut savoir qu'il y a des théologiens musulmans très nombreux qui ont participé à animer cette discipline intellectuelle qui s'attache non seulement à expliquer ce qu'est Dieu et comment les hommes croient en Dieu et ce qu'est la croyance en Dieu, mais également il y a une autre discipline qui va avec la philosophie et qui a alimenté la théologie, la réflexion théologique. C'est la philosophie. Ces deux disciplines vont ensemble. Et pendant tout le Moyen-Âge, les juifs, les chrétiens, les musulmans ont pratiqué simultanément la théologie pour lire les textes sacrés qui parlent de Dieu. Dans le Coran, je dois rappeler que le mot Allah intervient exactement 1697 fois. Cela veut dire que tout le Coran parle de Dieu, explique ce qu'est Dieu. Dieu se présente lui-même dans le discours coranique. 1697 fois, sans compter ce qu'on appelle sifatullah, c'est-à-dire les qualificatifs de Dieu. Donc, tout le discours coranique est rempli de Dieu. Et voilà pourquoi il y a de grands traités de théologie qui expliquent justement le nom de Dieu lui-même, Allah, et les attributs de Dieu. Mais il y a aussi les philosophes qui, à leur façon, parlent aussi de Dieu, mais pas de la même façon que les théologiens. Parce que les philosophes parlent de Dieu en utilisant d'autres textes fondateurs de la philosophie, d'autres textes religieux, en utilisant les ouvrages d'Aristote, le grand philosophe grec Aristote. Ça, il faut le retenir dès maintenant pour nos cours qui vont venir, pour nos leçons futures. La pensée islamique, contrairement à ce que nous constatons aujourd'hui, s'est développée, s'est épanouie, a construit un édifice considérable en utilisant à la fois les outils de la pensée théologique et les outils de la pensée philosophique. Aujourd'hui, peu de musulmans, sur le milliard et plus de musulmans qui existent, savent que pendant 7 siècles au moins, les musulmans, les penseurs musulmans, pour réfléchir sur l'islam, pour réfléchir sur le Coran et pour construire une théologie, ont pratiqué ces deux disciplines. À partir du XIIIe siècle, de 1198, c'est la mort d'Averroès, les musulmans ont mis de côté la philosophie, et en mettant de côté la philosophie, la théologie est devenue très faible, parce qu'elle a perdu ses outils de pensée. Les outils de pensée viennent de la philosophie. Ils viennent aussi du Coran, mais on utilisait les deux. Alors ça, c'est un point crucial que j'introduis tout de suite, et vous voyez que j'insiste là-dessus. Évidemment, je ne peux pas demander à tous les auditeurs d'aller faire de la philosophie et de la théologie, mais ceux qui veulent vraiment vivre leur foi musulmane, comme les chrétiens, comme les juifs, comme les bouddhistes et les autres, il faut, c'est impératif, il faut absolument s'intéresser à ce qu'écrivent les théologiens et les philosophes de façon à ce que, par exemple, la question du voile ne fasse pas l'objet de manifestations de rue seulement, et l'objet de débats qui sont fondés sur la double ignorance de sa propre religion d'une part et de ce que représente la pensée laïque d'autre part. Surtout quand cette ignorance se complique de l'ignorance que les défenseurs de la laïcité ont de l'islam lui-même et bien entendu de la pensée islamique. Alors, il y a une addition d'ignorance qui est absolument intolérable, et c'est pour cela que nous vivons dans une confusion, nous vivons dans la passion, et je reviendrai évidemment sur ce sujet extrêmement important pour l'expliquer, pour montrer les enjeux de cette bataille, les enjeux intellectuels de cette bataille, les enjeux culturels de cette bataille, les enjeux théologiques de cette bataille au sujet de la croyance religieuse, au sujet de ce que tout le monde appelle la foi. Dès qu'on prononce le mot foi, tout le monde est figé. Et surtout les laïcs, ils se figent. Ah, c'est la foi, je respecte la foi. Les laïcs ne veulent absolument pas apparaître comme des gens qui répriment la foi. Eh bien, je cède la place à Mounir Bachir pour nous réjouir un peu de sa belle musique. J'espère que ce morceau de musique vous a plu et nous reprenons donc notre cours, puisque je vous ai dit que j'essaierai de donner une allure de cours à ces entretiens. Je reviens maintenant à l'Aïd el-Kébir pour vous dire qu'il s'agit de la grande figure fondatrice du monothéisme qu'est la figure Ibrahim el-Khalil, comme l'appelle le Coran. Al-Khalil, l'ami de Dieu, le proche de Dieu. Alors, la figure d'Abraham n'appartient pas qu'aux musulmans. Nous voilà déjà dans un univers de pensée qui, là aussi, est plus un univers de grande ignorance qu'un univers de connaissance. Car Abraham est une figure fondatrice du judaïsme dans la Bible hébraïque. C'est pour cela que le Coran cite constamment, à plusieurs reprises, les Banu Israël, les enfants d'Israël. Il s'agit de l'ancien Israël, pas de l'Israël actuel, bien entendu. Et donc, la figure d'Abraham et la descendance d'Abraham jouent un rôle extrêmement important dans le déploiement, l'expansion de l'idée monothéiste à travers les étapes de l'enseignement biblique. Et nous savons que ces étapes ont duré plusieurs siècles. Et les historiens qui étudient la Bible montrent les étapes par lesquelles est passée la construction du monothéisme en partant du personnage d'Abraham. Alors, ce personnage, deux noms qui surgissent dans la Bible et dans le Coran, Ismaïl et Isaac. Dans le récit fondateur de la foi musulmane, c'est Ismaïl qui continue la descendance d'Ismaïl du côté de la branche sémitique arabe. Tandis que chez les juifs, c'est Isaac qui est retenu comme le continuateur de cette descendance. Donc il y a divergence de ce que on appelle, encore un mot s'il vous plaît, ne vous impatientez pas, cher auditeur, je dois prononcer le mot anthropologie. Ici, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que veut dire cette séparation de la généalogie de la descendance d'Abraham qui a donné deux branches que l'on appelle aujourd'hui le judaïsme, l'islam, et il y a évidemment le christianisme qui n'est pas exclu de cette continuité, puisque dans le christianisme, on respecte aussi la figure d'Abraham. Très rapidement, l'anthropologie, c'est encore un mot grec, parce que dans les langues européennes, le grec a joué un rôle fondamental dans la constitution de tout le lexique intellectuel et scientifique des langues européennes sans exception. On dit anthropologie en anglais, on le dit en allemand, etc. Donc ça aussi, c'est un jalon qu'il faut retenir pour réfléchir sur le lexique arabe. Est-ce que le lexique arabe a retenu ces concepts importants qui désignent des disciplines intellectuelles et scientifiques comme l'ont retenu les langues européennes, ou bien l'arabe est resté à l'écart de ce lexique et donc il va lui manquer quelque chose? Alors l'anthropologie s'occupe des récits mythiques, et donc les récits qui construisent la figure d'Isaac et de Ismaël divergent pour constituer de grands rameaux différents et de récits mythiques différents qui vont être les récits fondateurs de la perspective musulmane sur le monothéisme et de la perspective juive et chrétienne sur le monothéisme. Maintenant, il y a le noyau, l'autre noyau, le noyau du sacrifice d'Abraham. C'est pour cela que la grande fête, Eid al-Kibir, s'appelle aussi Eid al-Adha, Tadhiya, c'est-à-dire le sacrifice. Ça, on n'égorge pas le mouton, on fait un sacrifice rituel. C'est tout à fait différent. Quand on dit on égorge un mouton, ça veut dire qu'on évacue totalement la signification religieuse, spirituelle de cet épisode de la vie d'Abraham qui sert à mettre en scène une présentation concrète du désir d'être proche de Dieu, du désir d'accepter la présence de Dieu en nous-mêmes qu'avait Abraham et que Abraham a porté à la grande perfection en acceptant de sacrifier son propre fils pour manifester à Dieu qu'il ne recule devant aucun sacrifice. Et ça va jusqu'au sacrifice de la vie, de sa propre vie, pour montrer que si Dieu demande quelque chose, on lui obéit. On lui obéit amoureusement. Vous voyez que j'évite de prononcer le mot « soumission » en français. C'est la traduction que l'on trouve souvent du mot « islam » pour traduire le mot qui désigne la religion musulmane. C'est une traduction qui n'est pas du tout conforme à ce que veut dire le mot islam, sur lequel je reviendrai dans une autre causerie que je consacrerai justement à la comparaison entre le mot Allah, dont je viens de dire qu'il revient 1697 fois dans le discours coranique, tandis que, je le dis tout de suite, le mot islam dans ce même Coran n'est employé que 6 fois seulement. Quelle disproportion! Et si aujourd'hui nous lisons la littérature produite par les musulmans d'aujourd'hui, le mot islam a enterré le mot Dieu. Ça, c'est une remarque formidable. C'est une remarque statistique, s'il vous plaît, écoutez tous cette remarque-là, qui vous dit combien la religion est le produit des acteurs sociaux. Elle n'est pas le produit de Dieu lui-même. Comprenez bien ce que je dis ici. Parce que dans la confusion que crée l'ignorance, on ne sépare pas la religion qui est produite par l'intervention des théologiens, des juristes, des exégètes, des historiens, à partir du moment où le texte de la révélation est disponible, c'est-à-dire le Coran, la Bible, les évangiles. Une fois que le prophète a disparu, que Jésus, selon la croyance, est remonté au ciel, que le prophète Moïse a disparu, qu'est-ce qui reste? Il reste des hommes qui vivent leur vie dans des sociétés et qui se battent intellectuellement pour essayer de comprendre et d'interpréter le texte qu'il leur est laissé. C'est en ce sens que je dis, les religions sont les produits des hommes. Et un autre argument très fort pour comprendre ce que je dis, c'est que les musulmans depuis, disons, 50 ans, les 50 dernières années, ont, par leur manière de lire le Coran, par le rapport qu'ils ont avec le texte coranique, ils ont, sans s'en apercevoir, sans s'en rendre compte, éliminé le terme « Dieu », qui est le sujet et le destinataire de tous les verbes employés dans le Coran grammaticalement. Il est présent dans toutes les actions qui sont nommées dans le Coran. Tandis que, depuis une cinquantaine d'années, c'est l'islam. « Mada yaqulu l'islam an ?» Que dit l'islam du sacrifice que fait Abraham, par exemple, et quelle est sa signification? Ou que dit l'islam au sujet de ce fameux voile qui nous torture? Ou que dit l'islam au sujet de faire le ramadan lorsque je voyage, etc., etc. Et que dit l'islam sur le fait que j'émigre dans un pays qui n'est pas un pays de musulmans? Que dit l'islam? On ne dit pas que dit Dieu. Voici donc un certain nombre d'indications. Il faudrait ajouter beaucoup de choses sur le sacrifice lui-même. C'est un grand sujet pour la connaissance des religions. Il y a le mot sacrifice et le mot rituel. Les rituels, ce sont tous les faits et gestes. Et c'est aussi l'ensemble des formules que l'on prononce quand on procède au sacrifice du mouton. Et il y a toute une préparation rituelle. Et il y a tout un rituel qui suit le sacrifice pour que ce sacrifice remplisse toutes les fonctions qui lui sont assignées par la théologie dans la croyance musulmane, mais aussi dans les autres croyances religieuses. Merci de votre écoute et nous nous retrouverons la prochaine fois. Bienvenue à tous. Nous avons donné la priorité à la fête dans notre première causerie. Cette fois-ci, je vais prendre les choses à leur début et commencer par vous expliquer le titre que j'ai retenu pour cette série de causeries ou de cours, comme je vous l'ai dit. Le titre est « L'islam hier, demain ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. Cela veut dire que pour étudier l'islam comme religion et comme pensée, histoire de la pensée islamique, nous avons deux choix. Ou bien nous procédons comme nous avons l'habitude à l'école, quand on enseigne l'histoire de la littérature ou l'histoire de la philosophie ou l'histoire politique. Nous commençons par les origines et nous descendons le cours du temps jusqu'à nos jours. C'est ainsi que l'on a l'habitude de présenter l'histoire à nos élèves dans les lycées, à l'université, ça se passe un peu différemment. Et en particulier, en ce qui me concerne, j'ai créé une discipline que j'appelle l'islamologie appliquée, c'est-à-dire l'étude de l'islam comme religion et comme histoire de la pensée, en partant de ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés musulmanes. Qu'est-ce que nous observons? Qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui, lorsque nous allons en Indonésie, au Sénégal, Tadjikistan, etc., dans tous les pays musulmans? Et aussi, comment réagissons-nous et comment devons-nous réagir en tant qu'historien de la pensée ou quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de la pensée lorsque nous vivons un événement considérable comme le 11 septembre, que l'on attribue d'emblée à des mouvements que l'on qualifie d'islamistes, qui sont des mouvements d'essence politique, mais qui se réclament de l'islam, ou en tout cas on les rattache à l'islam, on parle d'islam constamment. Et donc, nous sommes placés devant des événements considérables, d'une très grande complexité, et immédiatement nous sommes renvoyés à l'islam, sans que nous ayons la possibilité de déceler les liens entre un acte, encore une fois, non seulement politique, mais terroriste et de grande envergure, comme le 11 novembre, ou bien la guerre civile en Algérie, tous les jours. on entend des nouvelles terribles, des égorgements, des attaques, des événements de violence, et dans d'autres pays musulmans, des attentats au Maroc, à Istanbul, etc. Toujours, toujours, l'islam. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du public musulman. On devrait pouvoir le savoir en faisant des enquêtes sociologiques, en faisant parler les différents représentants de l'islam comme religion, pour qu'ils s'expriment et montrent les liens qu'ils créent dans leur esprit entre des événements quotidiens dramatiques comme ceux que je viens de mentionner et l'islam. Ou bien, pour revenir à ce que nous vivons, le lien entre des femmes qui manifestent pour garder le voile à la place de la République, qui est un symbole de l'histoire de France révolutionnaire, en montrant le drapeau bleu, blanc, rouge français pour dire que ces femmes sont françaises et que néanmoins elles réclament de porter le voile et le droit de porter le voile. Il y a là une concentration de symboles, une concentration de messages qui sont des messages à la fois religieux, spirituels, politiques, intellectuels. Et comment déchiffrer cette complexité? Donc, on part d'aujourd'hui pour remonter vers l'arrière, pour remonter vers le passé. Car quand je dis, et quand un musulman quelconque dit « Je suis musulman et je fais cela au nom de l'islam », qu'est-ce qui se passe? Je suis renvoyé au Coran. Je suis renvoyé à la tradition du prophète. Je suis renvoyé à la charia qui est construite par les fuqaha et l'aïm al-mujtahidoun. C'est-à-dire que je suis envoyé à l'histoire. Car je ne peux pas accéder au Coran, au hadith, aux ouvrages de Malik ibn Anas, d'Abu Hanifa ou de Ibn Hanbal ou de Ja'far Sadiq, si je n'ai pas les outils de l'histoire. Je suis donc obligé de faire de l'histoire et de me demander que disent les grandes autorités de la pensée islamique au sujet du djihad et que disent les grandes autorités qui ont fait l'exégèse du Coran au sujet du fait d'habiter dans ce que les juristes appelaient autrefois Dar al-Harb, opposé à Dar al-Islam. Et j'ai appris récemment que cette division a été mise à l'étude par les oulamas qui se réunissent régulièrement avec l'Union des organisations islamiques de France. C'est donc un problème d'actualité. Comment est-ce que ces oulamas font le lien entre la doctrine islamique exprimée dans les ouvrages qui sont lointains, au 8e siècle, au 9e siècle, au 10e siècle, c'est très loin. Et comment lire ces ouvrages de hadith ou de droit musulman fiqh pour aller rechercher des solutions qui s'appliqueraient aujourd'hui dans la France républicaine laïque ou dans l'Allemagne fédérale démocratique ou dans la monarchie constitutionnelle anglaise? Comment me débrouiller dans tout ça? Alors j'ai choisi la méthode de l'islamologie appliquée, c'est-à-dire la connaissance islamologique s'applique aux événements actuels pour que le chercheur et l'enseignant fassent partie du grand mouvement de l'histoire et accompagnent le mouvement de l'histoire, pas seulement par des manifestations dans la rue, pas seulement par des actes terroristes, mais par les efforts de la pensée critique. Voilà ce qu'est l'islamologie appliquée, appliquée à chaque domaine. Cette idée de l'islamologie appliquée s'est imposée à moi lorsque j'ai suivi pendant 20 ans le séminaire de la pensée islamique en Algérie, qui a été organisé par le gouvernement algérien sans interruption de 1969 à 1991. C'est devenu une institution. Ce séminaire durait 10 jours. Et pendant 10 jours, des oulamas venus de tout le monde islamique se réunissaient dans une ville d'Algérie. Chaque année, on change de ville. Et traitaient des sujets très divers sur la modernité, sur le hajj, sur l'économie et l'islam, etc., etc. Et j'assistais pour des raisons professionnelles. J'écoutais plus que je ne parlais. Mon rôle était de recueillir ce qui se disait pour étudier ce que j'appelle le discours islamique contemporain, comment les musulmans traitent aujourd'hui des problèmes financiers, par exemple, des problèmes de santé, des problèmes de la condition féminine, des problèmes de l'éducation, et surtout comment tous ces problèmes-là sont traités du point de vue de la théologie, comme je l'ai expliqué, ou bien du point de vue de l'histoire critique. Cela veut dire que je pars du terrain actuel. Et en tant qu'historien de la pensée, je remonte et je compare ce qui se dit à ce que pouvait dire Al-Ghazali, Fakhreddin al-Razi, dans leurs commentaires du Coran, pas pour utiliser ou opposer la théologie de Fakhreddin al-Razi à la théologie des ulamas d'aujourd'hui. Non, pas du tout. Car je lis Al-Ghazali et Fakhreddin al-Razi et Ibn Rushd et tous les penseurs avec des outils conceptuels qui sont les outils de la modernité. Et ces outils-là, je les applique de la même façon aux anciens et aux contemporains. Et donc je peux aller plus loin que les anciens, parce que ce sont des médiévaux, et plus loin que les contemporains, qui ne tiennent aucun compte des outils de l'historien moderne quand il fait l'histoire de la pensée de ce Ghazali ou de ce Ibn Rushd ou la pensée de Cheikh Al-Qardawi, Cheikh Al-Bouti et tous les ulamas qui sont des autorités aujourd'hui qui exercent un magistère doctrinal et juridique dans les sociétés musulmanes d'aujourd'hui. Voilà ce à quoi je voudrais rendre les auditeurs sensibles. Parce que ça, c'est une discipline moderne. Et c'est une manière inédite, moderne, de connaître l'islam et de participer à l'évolution historique de l'islam et aussi à la modernisation de la pensée islamique. C'est cela l'objectif du titre « L'islam hier, demain ». Mais hier, demain c'est le futur. Et le passé est passé. Et moi, je parle dans le présent. Entre hier et demain, il y a le présent. Ça, c'est très important. Nous parlons toujours en fonction du poids du présent. Ça, ceci est vrai pour tout ce que les écrivains, les artistes, les penseurs, les enseignants produisent pour enrichir la culture et la civilisation. Nous sommes toujours sous la pression et les demandes du présent. Mais les demandes du présent doivent être éclairées par leur genèse dans le passé. Ce qui se passe aujourd'hui est le produit d'une évolution historique que je dois connaître. Et en même temps, le présent est sous les demandes du futur. Les demandes d'un futur proche, l'horizon 2010 par exemple, il pèse déjà sur nous. Il conditionne déjà nos décisions. Les démographes par exemple font un calcul. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Et ils intègrent ces calculs pour prendre des mesures immédiatement. On a vu ça dans le débat sur les retraites. De la même façon, nous devons prendre des mesures immédiatement dans le monde de l'éducation, dans les systèmes éducatifs aujourd'hui, d'urgence, demain. Le système éducatif a été, bien sûr, développé quantitativement. On a scolarisé, en un temps minimum, une très large partie de la population. Mais ça ne suffit pas d'avoir des locaux pour scolariser. Il faut aussi avoir des maîtres qui puissent donner un enseignement moderne. Or, ces maîtres, ils n'existaient pas au lendemain des indépendances. Les colonisations n'ont pas formé de maîtres. Et les gouvernements qui viennent d'arriver au pouvoir ne pouvaient pas les former en 5 ans. Et surtout, ces gouvernements-là ne connaissaient pas ni l'histoire réelle des sociétés pour pouvoir faire des programmes scientifiques, ni les besoins du futur pour les générations futures, comme je viens de l'expliquer, pour faire attention en particulier à la manière d'enseigner la religion à l'école. Et vous voyez à quel point, je l'espère, l'expression que j'emploie, l'islam hier, demain et le présent, qui me pousse à regarder demain et à bien regarder le passé pour ne pas le triturer, pour ne pas le manipuler à des fins politiques et politicardes, pour conquérir le pouvoir politique et se mettre à la place de l'autre, sans égard du tout pour les dommages causés pour la vie religieuse, pour les dommages causés sur les jeunes cervelles d'enfants et d'adolescents, à qui on enseigne des ignorances et même des monstruosités au sujet, justement, de la religion pour la promotion de la personne humaine et l'émancipation de la personne humaine. Voilà donc le programme. J'espère qu'il est clair. Et je souhaite que vous reteniez, chers auditeurs, cette deuxième leçon d'aujourd'hui, parce que ça, c'est un pilier, c'est un point de départ. Il faut toujours y revenir. Je vous invite à l'enregistrer, je vous invite à la réécouter, parce que si vous assimilez ce que je suis en train de dire et si vous en comprenez les visées, la portée pour l'avenir et la portée principalement pour l'éducation de nos jeunes générations, eh bien vous allez pouvoir intégrer tout ce que je vais dire en application de la méthode que je viens de définir et le programme que je viens de définir. Je vous remercie pour votre écoute et votre assiduité et à la prochaine fois. Bienvenue à tous. Nous reprenons nos causeries aujourd'hui et je vous rappelle que la dernière fois, je vous avais expliqué le sens de ces causeries et le titre général « L'islam hier, demain ». J'ai expliqué aussi ce que c'est que l'islamologie appliquée et comme il s'agissait d'un jour de l'Eid al-Kbir, je vous ai donné quelques explications sur cette grande fête en profitant du cas de Abraham et d'Ibrahim al-Khalil, comme l'appelle le Coran, et de sa descendance, pour introduire déjà un certain nombre de réflexions et aussi d'explications sur la différence entre le récit mythique et l'histoire critique. Car lorsque nous parlons de grandes figures du passé, lorsque ces figures nous sont familières en tant que prophètes, donc personnages en relation avec Dieu, nous avons deux types de transmission de la connaissance relative aux prophètes en général, y compris le prophète Mohammed. Il y a la voie mythique et la voie historique. Il faut bien comprendre la différence entre les deux parce que nous allons retrouver tout au long de nos causeries les références à une connaissance mythique et ce que les modernes, à partir du 18e, surtout 19e siècle, ont construit comme discipline cette fois-ci qui se veut scientifique, critique, qui travaille avec des documents contrôlés, et que nous appelons l'histoire. Aujourd'hui, nous allons poursuivre donc en essayant d'introduire la notion d'outil intellectuel de travail, les outils scientifiques dont un historien de l'islam et de la pensée islamique doit absolument se munir. Et il est important d'insister sur cette notion de outils parce que justement, en ce qui concerne l'islam, nous sommes extrêmement en retard par rapport à ce qui s'est fait déjà pour le judaïsme et plus encore pour le christianisme, sous ces deux formes bien connues, le catholicisme et le protestantisme. En effet, pour ce qui concerne l'histoire, nous dépendons de ce que les savants européens au XIXe siècle ont écrit, parce que c'est au XIXe siècle que la discipline de l'histoire a commencé, même chez les Européens, et donc les savants européens qui se sont intéressés à l'étude de l'islam et de la des cultures en islam ont appliqué à l'étude de l'islam les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées pour étudier les autres religions et en particulier le christianisme et le judaïsme. Ces outils s'appellent d'abord, il s'agit d'abord de ce qu'on appelle la philologie. La philologie, c'est une discipline auxiliaire du travail de l'historien. Elle consiste en effet à lire les documents anciens et à s'assurer du sens exact des mots employés dans les textes anciens pour ne pas interpréter ces mots avec les sens qu'ils ont aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Il y a le mot « aql » en arabe. Le mot « aql » en arabe, communément, désigne la raison. La raison avec, évidemment, toutes ses fonctions de connaissance scientifique et de connaissance critique. Mais dans les textes anciens, contemporains du Coran, ou avant le Coran, le mot « aql » ne désigne pas exactement ce que nous entendons par « raison ». Et ce qui va devenir la raison spéculative qui, comme je vous l'ai dit déjà à propos de la théologie et de la philosophie, s'intéresse à tout ce que la philosophie grecque nous a laissé depuis le IVe siècle et même le Ve siècle avant Jésus-Christ, philosophie qui s'est répandue dans le Proche-Orient et qui a changé complètement le sens de ce que nous appelons la raison. Dans le Coran, le mot « aql », cette forme substantive du mot « aql », n'intervient pas. Le mot n'est pas employé. C'est étonnant de ne pas trouver le mot lui-même « aql » utilisé dans la totalité du texte coranique. Il faut signaler cette absence pour nous rendre compte que le mot « aql » n'était pas aussi usité qu'il va le devenir un siècle, deux siècles après l'islam, surtout lorsque commence l'étude de la philosophie grecque et les traductions des textes syriaques philosophiques en langue arabe ou bien des textes en grec en langue arabe. Ce travail va commencer à se faire après l'islam, pas avant l'islam. Et jusque donc la fin de la période omeyyade et le début de la période abbasside, et l'histoire du mot « aql » nous met devant ce fait que le mot « aql » existait dans le lexique arabe, bien sûr, avant l'islam, mais ici il signifie la corde avec laquelle on attache le chameau pour qu'il n'aille pas errer et se perdre dans le désert. La corde, ça veut dire donc un lien. Et le aql, c'est ce qui liait quelque chose à autre chose. Le sens étymologique de aql en arabe, c'est le lien. Le lien que l'on établit, par exemple, entre un verset du Coran et les significations auxquelles renvoient les versets du Coran. Mais ces significations, c'est par exemple, comme dit le Coran, lorsqu'il nous parle des cieux et de la terre, et lorsqu'il nous parle de tous les produits de la terre, il nous dit « Afala taqiloun » « que ne faites-vous le lien entre ce que je suis en train de vous dire en vous parlant de l'univers, des cieux et de la terre, de la pluie et de la mer, etc. Évidemment, faire le lien, c'est exercer son intelligence pour comprendre les significations auxquelles renvoient les indications et les explications ou les révélations qui sont contenues dans chaque verset. Mais ça ne veut pas dire le raisonnement au sens du raisonnement logique, déductif, qui va s'imposer tardivement, bien après le Coran, dans la langue arabe. Voilà un exemple qui nous montre que la philologie fait un travail de restitution du sens des mots à chaque étape de l'histoire de la langue, quelle que soit la langue, qu'il s'agisse de l'arabe ou du grec ou aujourd'hui du français. Il y a un dictionnaire historique de la langue française qui comprend 20 gros volumes. Et pour chaque mot de la langue française, on retrace l'histoire. Quand est-ce que le mot est apparu pour la première fois dans l'histoire? Voilà un exemple qui montre le retard de notre connaissance historique de tout ce qui concerne la documentation sur l'islam comme religion et sur le travail qui a été fait dans les 5 premiers siècles de l'Hégire, parce que justement, nous ne disposons pas jusqu'à ce jour d'un dictionnaire historique de la langue arabe. La même chose pour le mot « ilm ». Le mot « ilm », lui, est très fréquemment utilisé dans le Coran, et on le traduit par « science ». Mais le mot « science », dans les langues modernes, ne disent absolument pas la même chose que veut dire le Coran lorsqu'il parle de « ilm ». Le « ilm », c'est la connaissance que l'on acquiert, justement, à travers les textes de la révélation. Donc la philologie, c'est aussi essayer de montrer que les textes anciens écrits par exemple, des historiens comme Al-Kalbi ou bien comme Yaqoubi ou bien comme Mas'oudi, il y a beaucoup d'historiens, ou bien, pour vous donner un exemple encore plus frappant, les textes de la poésie avant l'islam. Shi'r al-Jahili. Voilà, ce Shi'r al-Jahili a fait couler beaucoup d'encre pour savoir si les textes des poèmes attribués à Imrul Qais, par exemple, ou à Tarafa, sont des textes historiquement anti-islamiques, qui datent d'avant l'islam. Ça, c'est une grande querelle, et cette querelle est devenue célèbre dans l'histoire de la littérature arabe, et donc de la langue arabe aussi, puisque Taha Hussein a publié pour la première fois un livre sous le titre « Fichir al-Jahili », étude de la poésie avant l'islam, et dans cette étude, Taha Hussein utilise les méthodes de la philologie pour vérifier ce qu'on appelle l'authenticité historique des textes qui nous sont présentés comme des textes de Tarafa ou des textes de Batasharran ou des textes anciens avant l'islam, posent tous ce problème-là. Et nous savons qu'il y a eu une grande bataille autour du livre de Taha Hussein parce que le problème de l'authenticité des textes de la poésie islamique sont liés au problème de la langue utilisée par le Coran. Le sens de la langue utilisée par le Coran. Et les exégètes musulmans ont utilisé les textes anciens de la poésie pour comprendre un certain nombre de termes utilisés dans le Coran. Voilà pourquoi, lorsque Taha Hussein a contesté l'authenticité des textes de la poésie islamique, ça entraîne des problèmes pour l'exégèse coranique et la façon dont le Coran a été compris et interprété selon, encore une fois, une connaissance de la langue arabe qui devait être précisée de plus en plus. Il y a eu des chercheurs arabes en ce temps-là qui se sont occupés de ce problème, mais aujourd'hui, évidemment, faire un dictionnaire historique de la langue arabe est plus à notre portée parce que nous avons beaucoup plus de moyens de faire un tel travail. Nous faisons notre petite pause habituelle pour écouter cette fois-ci Mozart. Je choisis exprès un musicien d'Occident car je tiens beaucoup dans ces causeries à illustrer l'ouverture que nous devons cultiver vis-à-vis des autres traditions de pensée, des autres civilisations, car cela aussi, nous en ressentons le manque, malheureusement, dans nos sociétés d'origine, mais aussi au sein de l'immigration, puisque au sein de l'immigration, la musique, la peinture ne fait pas l'architecture, la sculpture, tous ces moyens d'expression ne font pas encore recette, ne suscitent pas la curiosité nécessaire parmi un grand nombre pour que nous avancions vers un dialogue enrichissant des cultures. J'espère que ce morceau de Mozart vous donnera envie d'en écouter plus, parce que la musique de Mozart est universelle et nous essaierons de trouver d'autres exemples pour vous donner le goût et la curiosité, comme je l'ai dit, de découvrir d'autres cultures. Nous parlions donc de philologie. En plus de la philologie, les anciens se sont préoccupés beaucoup de l'étude de la grammaire arabe et de la lexicographie arabe, justement pour les raisons que je vous ai indiquées. On avait besoin de comprendre le texte coranique en se servant des textes contemporains du Coran ou du texte qui venait un peu avant le Coran, pour pouvoir éclairer la prose du Coran. Mais, comme je l'ai dit, l'histoire, au XIXe siècle, va utiliser des moyens beaucoup plus précis pour vérifier le travail des anciens. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il nous faut réétudier et relire tous les textes d'histoire, les textes relatifs, par exemple, aux asbab nuzul, les circonstances de la révélation, les textes relatifs à l'histoire de la période prophétique elle-même et l'histoire relative au premier temps des dynasties Omeyyade et Abbaside. Bref, tous les textes qui ont été écrits dans tous les domaines jusqu'au 4e, 5e siècle et même après. Outre l'histoire, pour nous armer afin de comprendre et de écrire à nouveau l'histoire de l'islam et des cultures musulmanes, la deuxième science aujourd'hui qui est absolument indispensable, c'est ce que j'ai appelé déjà, je vous avais entendu le mot, c'est l'anthropologie. L'anthropologie s'intéresse à l'étude des structure de la société ancienne et à l'étude des cultures anciennes, mais aussi des sociétés d'aujourd'hui. Par exemple, l'anthropologie va s'intéresser à l'étude du sacré, puisque le sacré conditionne tout le langage religieux et conditionne toutes les croyances des sociétés de ce temps-là. Et il nous faut donc comprendre la signification du sacré par rapport à ce que le Coran va introduire de nouveau par rapport au sacré tel qu'il fonctionnait dans les religions arabes anté-islamiques et tel qu'il fonctionnait aussi dans d'autres religions comme le judaïsme et le christianisme. Le sacré est une dimension que nous trouvons en effet dans toutes les religions et dans toutes les cultures. Un autre exemple de ce que l'anthropologie étudie, c'est les rites. Quelle est l'origine des rites? Par exemple, on vient de faire le pèlerinage à la Mecque. Nous savons que les pèlerins à la Mecque accomplissent un très grand nombre de rites qui sont stricts et qu'il faut répéter d'une façon absolument exacte, de façon à ce que le pèlerinage soit valide du point de vue de la définition de chaque rituel, comme par exemple la tournée rituelle autour de la Kaaba, le rite du Rujum, la lapidation de Satan, le rite de la course, le rite du Wukuf, c'est-à-dire la station rituelle au mont Arafat. Tous ces rites-là constituent l'ensemble des gestes et des paroles que chaque pèlerin doit reproduire pour que le Hajj soit valable. Et le rite n'est pas particulier à l'islam. L'anthropologie étudie ces notions-là qui se retrouvent absolument dans toutes les religions, mais qui se retrouvent aussi dans les cérémonies modernes, ce qu'on appelle par exemple le protocole du pouvoir lorsque un président de la République reçoit un ambassadeur. Il y a tout un protocole qui doit être observé, et ce que nous appelons le protocole, c'est comme les rites que nous observons dans les pèlerinages, dans les prières et dans tous les faits et gestes que le croyant peut accomplir dans le domaine de la religion. Nous allons nous arrêter là et nous reprendrons ces explications la prochaine fois.